Vous écoutez, on lit pour vous.
Problème de poids et crainte de consulter, un texte de Catherine Enfield, paru le 20 octobre 2024 dans la presse. Un parent inquiet par rapport au poids de son enfant peut sentir de l'ambivalence. Est-ce légitime de s'en faire? Faut-il améliorer en cachette les habitudes de la famille? Demander du soutien professionnel? Et si ces démarches en venaient à déclencher un trouble alimentaire? Pour discuter de ces questions délicates mais importantes, la presse s'est entretenue avec deux pédiatres. Qui sont nos experts? Olivier Jamoul est chef de la section de médecine de l'adolescence au CHU Sainte-Justine et professeur agrégé à l'Université de Montréal. Ses intérêts de recherche incluent les troubles alimentaires et la communication avec les patients. Sébastien Bergeron est médecin résident en santé publique et médecine préventive à l'Université de Sherbrooke. Il est aussi pédiatre à la clinique Tremplin, consacrée à la prise en charge de l'obésité pédiatrique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Surpoids ou obésité. Lorsque ces termes apparaissent sur la courbe de croissance d'un enfant, les parents s'inquiètent et ils sont tentés d'intervenir pour changer le cours des choses. Il y a des raisons valables de vouloir le faire. L'obésité à l'enfance est susceptible de se poursuivre jusqu'à l'âge adulte et elle est associée à différents problèmes de santé, tant physiques que psychologiques. Le premier facteur d'intimidation chez les enfants et les adolescents, c'est le poids. D'un autre côté, on sait que des commentaires déplacés sur le poids, qu'ils viennent de la famille, des amis ou d'un professionnel de la santé, ça laisse des traces. Et que ça peut même prédisposer, dans certains cas, à des troubles alimentaires. Les parents peuvent donc hésiter à aller chercher de l'aide et même à demander à son enfant si la situation le fait souffrir. Le poids est un sujet tabou. Est-ce légitime de s'inquiéter du poids de son enfant? Le docteur Sébastien Bergeron et le docteur Olivier Jamoul sont du même avis. C'est légitime, même adéquat, de se questionner lorsque son enfant prend du poids de façon rapide ou importante, ou s'il présente un surpoids ou de l'obésité. Ça pourrait même être perçu comme de la négligence de ne pas le faire, estime le docteur Bergeron. Lorsqu'il y a un enjeu de surpoids, il faut s'assurer du bien-être de l'enfant, ajoute le docteur Jamoul. Y a-t-il une cause sous-jacente? Est-ce qu'il a des besoins en matière de santé physique ou psychologique? Est-ce qu'il est victime d'abus à l'école? En fait, ne pas en parler serait une grosse erreur. Quand consulter? Idéalement, la courbe de croissance de l'enfant fait déjà l'objet d'un suivi médical. Le parent a tout intérêt à prendre les devants si son enfant manifeste une insatisfaction corporelle ou s'il a des comportements alimentaires inadéquats, comme de la privation ou des compulsions, estiment les pédiatres. Conditions interreliées. Le surpoids ou l'obésité touche un jeune sur quatre au Québec, tandis que les troubles alimentaires affectent 1 à 2 % des adolescents. On a tendance à voir l'obésité et les troubles alimentaires comme deux conditions distinctes, mais elles se recoupent à certains égards. Dans l'une comme dans l'autre, on trouve souvent un historique de régime, de taquinerie ou d'intimidation, de trop grande importance accordée au poids à la maison, d'insatisfaction corporelle. 30 % source Aguera et autres, Neuropsychiatrie 2021, près de 30 % des patientes atteintes d'un trouble alimentaire ont souffert d'obésité dans leur vie. Les troubles les plus fréquents chez les personnes obèses sont l'hyperphagie et la boulimie. Les études montrent que, Lorsqu'elle est faite de manière appropriée, l'approche pour prévenir et traiter l'obésité chez l'enfant ne prédispose pas aux troubles alimentaires. Au contraire, elle agit sur les deux fronts en même temps. En intervenant tôt et dans une approche non culpabilisante et respectueuse, on peut aussi travailler à réduire les chances qu'un trouble alimentaire survienne plus tard dans la vie du jeune, résume le docteur Sébastien Bergeron. Le docteur Olivier Jamoul en convient. Il arrive que des enfants traités pour un trouble alimentaire évoquent une intervention maladroite d'un professionnel de la santé, mais c'est rarissime, assure-t-il. Ce qu'on voit beaucoup, ce sont des jeunes qui étaient un peu en surpoids et qui ont développé un trouble alimentaire, poursuit le docteur Jamoul. Et souvent, comme facteur déclencheur, on trouve des propos inadéquats, soit à l'école, soit dans la famille. Vous écoutez « Problèmes de poids et crainte de consulter », un texte de Catherine Anfield, paru le 20 octobre 2024 dans la presse. Qu'est-ce que c'est une bonne approche? Elle varie d'un patient à l'autre, en fonction de sa courbe de croissance et de son âge. Avec un adolescent, l'intervention est différente. Elle mise davantage sur l'autonomie et elle est particulièrement précautionneuse, étant donné les changements corporels liés à la puberté et l'importance de l'image corporelle à ces âges. Mais avec les enfants, c'est une approche familiale, multidisciplinaire, qui met l'accent sur les habitudes de vie. Pas juste les habitudes du jeune, mais celles du milieu familial, précise Sébastien Bergeron. Graduellement, la famille fait des changements sur le plan de l'alimentation, de l'exercice, du sommeil, des écrans. Est-ce que certains enfants réagissent moins bien en prenant conscience que leurs parents se préoccupent de leur poids? Ça peut arriver. Mais la consultation médicale peut justement aider à travailler cet élément-là, indique le docteur Bergeron. Si l'enfant pleure lorsqu'on parle de poids, si c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder, ça veut dire qu'il y a un gros problème sous-jacent, estime Olivier Jamoul. Donc, il faut explorer cette tristesse, ce mal-être. Et souvent, l'enfant est déjà préoccupé par son poids. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent à cause de leur poids ou des commentaires qu'ils ont entendus, mais qui n'osent pas en parler à leurs parents parce qu'ils ont peur de les décevoir ou parce qu'ils ressentent de la honte, souligne Sébastien Bergeron. L'objectif, c'est que le jeune ait l'impression que son problème, quel qu'il soit, a été compris, selon le docteur Olivier Jamoul. Les études publiées à ce jour montrent que l'implication des parents est déterminante dans le succès de ces interventions familiales. Dans la plupart des cas, oui, ça fonctionne, indique Sébastien Bergeron. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement la même portée pour tous en termes de poids, mais ça permet de travailler les habitudes de vie. Déjà, on améliore la santé et on permet aux jeunes de vivre des succès. Insatisfaction corporelle. En janvier 2024, une étude publiée dans le Lancet Psychiatry a mis en lumière une triste association lorsqu'un enfant a un indice de masse corporelle élevé à 7 ans. Il est plus susceptible d'être insatisfait de son corps à 11 ans et de présenter des symptômes dépressifs à 14 ans. C'est particulièrement vrai chez les filles. Les auteurs de l'étude appellent à réduire la stigmatisation à l'égard du poids dans les messages de santé publique, dans les établissements de santé et dans les médias. L'insatisfaction corporelle est très fréquente chez les jeunes. Est-ce possible de protéger son enfant contre la stigmatisation, l'intimidation et le culte de la minceur? Les parents doivent faire attention aux mots qu'ils utilisent et parler de santé et d'habitudes de vie plutôt que de mettre l'accent sur le poids et l'apparence, estiment les deux pédiatres. peser les enfants à la maison n'est pas conseillé. Les parents ont aussi un rôle de protection à jouer en restant à l'affût de ce qui se passe à l'école et sur les réseaux sociaux, estime le docteur Jamoul. Ils doivent aussi être conscients de l'exemple qu'ils projettent. C'est malsain pour un enfant d'être témoin d'un parent qui se met toujours au régime, qui fait constamment des commentaires sur son propre poids ou celui des autres, résume Sébastien Bergeron. L'objectif, c'est de manger mieux et d'être actif, pas de tomber dans les restrictions alimentaires et de faire de sport à l'extrême, rappelle le docteur Jamoul. C'était « Problème de poids et crainte de consulter », un texte de Catherine Anfield paru le 20 octobre 2024 dans la presse.
Retrouver la folle en soi? Une chronique de Denis Daniel Boulay parue le 1er novembre 2024 dans le magazine Fugue. Sortons un peu des discours ambiants, propres sur eux, bien pensés, mais qui, à la longue, sont lassants. Dès les débuts des mouvements LGBTQ, de ceux qui sont apparus sur la place publique, se dessinait une fissure qui deviendrait à la longue une fracture. Mais que cherchait-on à la fin? Il fallait bien se débarrasser des lois discriminatoires, accéder à une égalité de droits comme le mariage, et être reconnu à part entière dans l'espace social. Certains, certaines espéraient qu'un jour, leurs différences et leurs amours longtemps condamnés se fondent dans le reste de la société et s'accordent aux normes hétérosexuelles et bien sûr patriarcales. D'autres se voulaient des réformateurs sociaux qui redéfinissent les rôles et qui enterreraient définitivement toutes les conventions sociales existantes responsables de nos malheurs. Je ne prendrai pas la parole à la place des lesbiennes, des trans et autres. Je ne toucherai, sans mauvais jeu de mots, qu'aux gays. Trop longtemps considérés comme des folles, des sous-hommes, relégués au rang de fausses femmes et pour ces raisons détestés par les mâles hétérosexuels qui ne se privaient pas et ne se privent toujours pas de tabasser les gays, une tendance est née dans les années 70 et qui perdure aujourd'hui, de se prouver qu'on était de vrais hommes comme les autres. On a multiplié les signes extérieurs de masculinité, un abonnement dans un centre de gym, la barbe et ou la moustache, virilité que l'on soulignait par des vêtements choisis. Ainsi, on mettait en valeur une virilité reconquise en mettant en valeur ses cuisses de taureau, des pectoraux saillants, s'efforçant d'entrer dans des jeans ultra serrés que l'on appelait aussi des moule-couilles, tant ils magnifiaient le sexe masculin. Le fantasme du corps viril n'était plus qu'à une portée d'haltère. Mais c'était aussi une quête de respectabilité, puisqu'ainsi transformés, nous ne nous faisions plus remarquer par le commun des mortels. On a tous entendu un jour un ou une collègue s'exclamer « Tu es gay? Comment ça? Mais ça ne se voit pas. » Le bon côté de la chose, c'est que nous pouvions marcher dans la rue la nuit sans recevoir un lot de moqueries dans le meilleur des cas ou se faire tabasser dans le pire des cas. Un retour à l'invisibilité, un premier pas vers l'effacement. Le bouchon a été poussé plus loin, car aujourd'hui, beaucoup de gays demandent que leur partenaire de nuit, ou de quelques minutes, ou d'une vie corresponde à ce modèle. Pour éviter toute confusion, certains précisent dans leur profil « folle s'abstenir ». Bonjour la discrimination et peut-être, j'ose l'écrire, l'homophobie intériorisée, ou pour employer l'expression usuelle aujourd'hui, l'homophobie internalisée. J'exagère, je sais. La plupart des gays arborant une virilité exacerbée ne sont évidemment pas homophobes, mais pas au point de se mettre en couple avec un gay qui aurait des allures féminines. Moins présentable au souper de famille, lors de pots entre collègues, ou encore avec ses copains de sa ligue de hockey amateur? Aujourd'hui, les mâles hétéros ont beaucoup moins de difficultés à avoir des amis gays, parce que ceux-ci n'en ont plus l'air. ils ne risquent plus de leur foutre la honte. Ils ont des muscles, ils se remontent les couilles toutes les 5 minutes, savent se moucher dans leurs doigts et conduire un 10 roues comme de vrais mecs. Je grossis le trait avec humour. Oui, ne partez pas en vrille. Comme les mâles hétéros, ils peuvent fonder une famille, s'intégrer dans un conseil d'administration en portant les mêmes costumes et les mêmes cravates que les autres membres. En résumé, ils font partie de la gang. Après des siècles de persécution, de rejet, de violence, etc., on peut comprendre que ces gars ont enfin la sensation de pouvoir vivre enfin en toute sécurité, de ne plus craindre d'être remarqués ou réduits à leur simple orientation sexuelle. Les concessions qu'ils font ne sont pas si graves, puisque l'image qu'ils renvoient colle totalement avec leur fantasme sexuel. Bref, du 2 pour 1. Le problème est bien encore une fois la question du modèle présenté et auquel on s'évertue à ressembler. Fait-on maintenant partie de cette gang de mâles virils hétérosexuels qui aujourd'hui nous font la bise et qui hier nous mettaient le poing sur la gueule? Les hommes hétéros, dont certains se disent gay-friendly, ont-ils changé tant que cela? Certes, nous avons tous dans notre entourage des hommes hétéros qui ont fait un grand bout de chemin dans leur tête et qui se sont rendus compte à quel point les sociétés, les religions, la science leur avaient conféré des pouvoirs et des privilèges immenses du simple fait qu'ils avaient un petit bout qui dépassait à la naissance. Les nouveaux mâles sont-ils aussi nombreux qu'on le pense? Demandez aux femmes et vous aurez la réponse. Regardez l'état du monde dont les principaux dirigeants sont des hommes. Lisez les textes de nombreux chroniqueurs qui ne cessent de rappeler à quel point l'homme, le vrai, serait en voie de disparition. Même si ce fameux homme reste encore à plus de 90% responsable des féminicides, même s'il continue à casser du fif ou du pédé, du trans, à violer tout ce qui bouge, ici et ailleurs. Bien qu'un changement s'opère, il progresse à pas de tortue. Nous nous sommes travestis au nom de l'acceptation, mais peut-être le travestissement est-il dans nos gènes. Nous avons revêtu les habits et parfois les us et coutumes de nos anciens oppresseurs pour en retirer les mêmes avantages et privilèges sans même penser que nous pouvions en devenir des agents reproducteurs du système hétéropatriarcal. Je sais, c'est une stratégie pour se faire accepter socialement, un peu comme un ver dans le fruit qui, petit à petit, change les choses. Mais à ce jeu, qui gagne à la fin? D'une part, le système hétéropatriarcal est capable de faire des petites concessions pour ne pas être bousculé ou déboulonné. D'autre part, les conservateurs, religieux, traditionnalistes, dénoncent cette stratégie en rappelant que nous avons infiltré par ce choix toutes les sphères de la société et d'en appeler à une lutte contre ce qu'ils appellent le wokisme. Se conformer est-elle la meilleure, sinon l'unique solution pour se faire accepter? Devons-nous nous effacer et taire nos différences avec comme seule respiration la journée du défilé pour afficher nos couleurs, pour se reconnecter avec la folle qui est en nous et que l'on est parfois prêt à sacrifier? En fait, quand on s'habille avec un costume pour faire comme tous les vrais hommes, on risque de se pendre avec la cravate que l'on revêt. C'était « Retrouver la folle en soi », une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 1er novembre 2024 dans le magazine Fugue.
Comment se réapproprier son déplacement au travail, un texte de Florence Dancause, paru le 20 octobre 2024 dans la presse. Métro, boulot, dodo. La routine est bien établie et se fait 2-3 jours ou plus par semaine. Pendant ce temps, la congestion automobile dans le Grand Montréal a repris de plus belle depuis la rentrée. Comment peut-on transformer ce moment obligé et souvent frustrant de déplacement en un moment plaisant? Réflexion sur le navettage. Un moment de transition bénéfique. la psychologue organisationnelle Guylaine Deschênes nous invite à voir notre déplacement au travail comme un moment tampon, plutôt que d'arriver avec le stress de la maison au travail ou le stress du travail à la maison. Ce moment nous permet d'être plus disposés. Olivier Roy-Baillargeon, coureur navetteur depuis 2016, l'expérimente chaque jour lorsqu'il accompagne sa fille vers l'école en courant avant de s'affairer à ses tâches professionnelles chez lui. Ça me permet d'être dans les meilleures dispositions mentales pour être dans le bon mode avec les bonnes personnes au bon moment, relève celui qui parcourt ainsi 8 km chaque jour de la semaine. Cette coupure, ça devient un moment qu'on ne se permet pas nécessairement dans les autres moments de la journée, croit Guylaine Deschênes. Pour la météorologue Ève Christian, son navettage Boucherville-Montréal lui permet de prendre une pause dans son horaire chargé, surtout l'été lorsqu'elle emprunte la navette fluviale. J'ai l'impression d'être en vacances avant d'aller travailler. Ça teinte ma journée, explique-t-elle. Plusieurs personnes ne veulent pas travailler trop près de chez elles pour avoir ce moment de transition, relève la psychologue. Mais il y a une certaine limite au temps de transport. Plus on est longtemps dans les déplacements, moins on a de temps de qualité à la maison et au travail, dit-elle. Choisir son passe-temps. Pourquoi les gens considèrent-ils le navettage comme l'un des pires moments de leur journée? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de contrôle, explique Marie-Colombe Afota, professeure à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Si on se déplace en voiture, ce qui représente la majorité du navettage au Québec, on n'a pas d'influence sur la circulation, par exemple. Comment reprendre un peu de contrôle sur ce moment? Même si plusieurs personnes ne peuvent pas changer leur mode de transport, il est possible de décider de son activité qui ne sera que pour soi et qui sera en dehors de toutes les exigences associées au rôle professionnel et personnel, indique la professeure. Guylaine Deschênes propose aussi aux gens de considérer cette période comme du temps pour soi. Les choix sont multiples. Écouter une émission balado, de la musique, lire un livre, faire du tricot, suivre un cours audio, regarder le paysage et même faire des exercices de relaxation. C'est mieux de planifier un passe-temps que de tuer le temps sur les réseaux sociaux, ajoute Marie-Colombe Afota. Mais on peut toujours sortir son cellulaire. Si ça permet de moins le faire en soirée ou durant la journée, croit Guylaine Deschênes. Peut-on avancer des tâches liées au travail? Avec parcimonie, concèdent les deux expertes. Les appels professionnels, je dirais en cas d'urgence seulement, car ce n'est pas vraiment le meilleur moment. On peut regarder un peu ses courriels et lire des documents, mais je n'en ferai pas une habitude, indique Guylaine Deschênes, qui soulève qu'il y a aussi des enjeux de confidentialité. On n'est pas obligé de tout maximiser et d'être super productif, affirme pour sa part Marie-Colombe Afota. On peut, par contre, planifier légèrement sa journée à venir, indique-t-elle. Ajouter du social. On peut faire des appels personnels, indique la psychologue Guylaine Deschênes, tout en évitant de déranger dans les transports en commun. On peut aussi se tourner vers le covoiturage entre voisins ou collègues. L'idéal, c'est que l'employeur facilite le covoiturage. Ça permet de connaître des collègues d'autres départements et de renforcer le sentiment d'appartenance. On croise souvent la même personne à l'arrêt d'autobus. On peut engager une conversation, suggère Marie-Colombe Afota. Selon des recherches, parler à une personne, même inconnue, durant le navettage, augmente notre niveau de satisfaction. explorer de nouveaux déplacements. Certains navetteurs pourraient y gagner en rendant leur mode de transport plus actif, par exemple. Les études montrent que, pour une durée égale, le transport actif sera plus satisfaisant, explique Marie Colombe-Afota. Si on pense au vélo et à la marche, il y a l'idée d'être à l'extérieur et de faire de l'activité physique. Pour la professeure, c'est aussi des modes de transport où on a davantage le contrôle. Pas de circulation ou de voisins de siège dérangeants, donc plus de plaisir. On peut aussi pencher pour un mode inusité, comme la course navettage. Olivier Roy-Baillargeon, un adepte qui est aussi entraîneur de course, encourage fortement les gens à l'essayer, pour la santé physique et mentale, mais aussi pour le bien-être de la planète. Il recommande d'y aller graduellement, de courir pour rejoindre une station de métro, d'autobus ou de vélo en libre-service, et d'allonger son trajet petit à petit. Évidemment, cette façon de faire nécessite d'avoir accès à des douches dans le milieu de travail et de s'organiser pour transporter ses vêtements et ses lunchs. La navette fluviale dans le Grand Montréal est également une option qui sort de l'ordinaire. La météorologue Ève Christian l'emprunte depuis 3 étés pour se rendre à son bureau. Même si le trajet s'avère plus long qu'en auto, elle y voit plus de bénéfices. Je vais m'installer dehors, debout sur le devant du bateau, et j'ai une demi-heure à regarder le paysage que je connais de plus en plus. Je respire, dit-elle. Il n'y a plus le stress de la circulation ou du stationnement, seulement le vent dans les cheveux. En savoir plus. 26,4 minutes, durée moyenne du navettage au Canada, source Statistique Canada, mai 2024. 2 heures ou plus, durée de navettage où la satisfaction est la moins grande, source Statistique Canada, 2011. 17 minutes. Durée idéale du navettage, selon une étude réalisée auprès de voyageurs de la région de San Francisco. C'était « Comment se réapproprier son déplacement au travail », un texte de Florence Dancause, paru le 20 octobre 2024, dans la presse.